Bonjour, je m'appelle Juelle Boulay. Bienvenue à la troisième saison de Jason Éducation. Aujourd'hui, mon invitée est Claudine Lupien.
Je m'appelle Claudine Lupien. Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants déterminés et ambitieux, nous posons de bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves.
Claudine Lupien a œuvré pendant 13 ans comme enseignante de mathématiques de la 7e à la 12e année dans les écoles francophones du Manitoba. Elle est professionnelle enseignante depuis 2011 et vice-doyenne depuis 2014 à la Faculté d'éducation de l'Université de Saint-Boniface. Ses domaines variés d'expertise incluent l'éducation interculturelle, l'accompagnement d'étudiants scolarisés à l'extérieur du Canada en Faculté d'éducation, les didactiques des mathématiques, entre autres. Bonjour Claudine, bienvenue!
Bonjour Joëlle!
Alors, j'ai une question pour commencer. Quel était ton cheminement pour te rendre à l'éducation comme pédagogue?
Je pense comme plusieurs enseignants-enseignantes, j'ai toujours voulu être enseignante. Je me souviens que plus jeune, j'avais une petite dactylo, puis je préparais des feuilles de travail pour ma sœur qui est plus jeune, qui détestait cela, puis je l'assoyais, puis je lui enseignais. J'ai fait un baccalauréat en mathématiques et au départ, je pensais m'en aller en actuariat, que j'ai fait pendant un an. Et ensuite, je m'ennuyais du contact humain. Alors, j'ai décidé de faire un bac en éducation et je voulais absolument le faire en français. Et à l'époque, j'habitais la Nouvelle-Écosse. Alors, je suis venue à l'Université de Saint-Boniface étudier en français et ensuite, je suis restée au Manitoba et c'est comme ça que je suis devenue enseignante.
Et maintenant, tu as fait une maîtrise, ensuite un doctorat aussi?
Exact. Alors, j'ai enseigné pendant 13 ans au Collège L'Oréal. Pendant que j'enseignais au secondaire, j'ai fait ma maîtrise. Ensuite, j'ai eu un poste à l'Université de Saint-Boniface. Dans ma deuxième année à l'Université de Saint-Boniface, j'ai débuté mon doctorat que j'ai terminé il y a 2 ans.
On est ici pour parler exactement de ce doctorat-là. Alors, c'est quoi le sujet exactement?
J'ai choisi d'étudier les perceptions des étudiants qui auraient été scolarisés à l'extérieur du Canada, mais qui ont choisi de faire un baccalauréat en éducation au Manitoba ou au Canada.
Et qu'est-ce qui a incité cette recherche?
Lorsque j'enseignais au Collège L'Oréal, j'ai souvent accueilli des stagiaires dans ma classe. Et souvent, c'était des stagiaires qui promenaient d'autres pays. Et puis, je pense que comme enseignant, on est toujours intéressé à comprendre comment les autres vivent les choses, comment c'était l'école dans leur pays. Alors, je me suis mis à beaucoup discuter avec eux et eux me parlaient des différences, comment l'école était différente au Canada de ce qu'eux avaient vécu dans leur pays. Puis ensuite, quand je suis arrivée à la faculté d'éducation, on avait de plus en plus d'étudiants qui s'inscrivaient à la faculté, qui promenaient d'autres pays. Et là encore, j'ai eu à leur enseigner des cours ou à les suivre pendant leur stage. Et je me suis mise à m'intéresser à c'était quoi leur perception d'un programme au Canada. Et mon intention, c'était vraiment de leur donner la parole, qu'eux m'expliquent leur perception, plutôt que d'aller voir les profs de la faculté ou les enseignants coopérants qui accueillent des stagiaires, puis qu'eux me parlent de comment ils vivent ça quand ils reçoivent un stagiaire d'un autre pays. Je m'intéressais plus à savoir ce que le stagiaire, lui, vivait.
Est-ce que tu avais entendu un commentaire quelconque qui, comme, t'a incité à faire ça ou est-ce que c'est juste comme, oh, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent?
Non, c'est pas nécessairement un commentaire. Sauf, on entendait souvent les gens dire, oh, ils ont plus de difficultés, c'est différent l'école, qu'est-ce qu'eux ont vécu. Alors, moi, je m'intéressais plus à, plutôt que nous, on donne nos perceptions puis des suppositions, bien, allons voir les gens qui l'ont vécu directement puis demandons-leur ce qu'eux ont vécu, ce qu'ils en pensent.
Oui, puis on veut absolument les accueillir ici parce qu'on a une pénurie d'enseignants qui enseignent en français au Manitoba. Donc, on veut accueillir autant d'élèves ou d'étudiants qui viennent d'ailleurs que possible. Parlant de cette pénurie, pourquoi exactement est-ce qu'on vit ça ici au Manitoba?
C'est pas nous seulement.
Okay.
C'est partout au Canada en ce moment qu'il y a une pénurie. Pas que j'ai étudié la question, mais des suppositions, des hypothèses. Là, premièrement, on sait qu'il y a une expansion des programmes d'immersion française au Manitoba qui fait que ça augmente le nombre d'enseignants qu'on a besoin. Il y a aussi de plus en plus d'étudiants qui s'inscrivent dans les commissions, les divisions scolaires francophones, par exemple la DSFM au Manitoba. Alors, ça augmente aussi le nombre d'enseignants qu'on doit recruter. Et il y a des retraites. Alors, il y a des gens qui prennent leur retraite en ce moment, ça crée des ouvertures de postes. Et il y a aussi des gens qui quittent la profession. Alors, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ne resteront pas en enseignement après les 5 premières années. Ça fait que ça crée beaucoup de postes en immersion, en français. Ce qui est différent au Manitoba en ce moment, c'est que l'Université de Saint-Boniface connaît une croissance d'inscriptions à la faculté, tandis que beaucoup d'autres facultés ailleurs au Canada connaissent une décroissance. Il y a moins de gens qui s'intéressent à l'éducation. Nous, on voit l'inverse. On a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'éducation, qui est bon signe pour le milieu scolaire.
Oui. Est-ce qu'on parle juste des universités francophones ou juste des facultés d'éducation en général?
Facultés d'éducation en général.
Alors... Puis après la pandémie, ils ont tous vu que, oh wow, c'est vraiment difficile.
Je ne sais pas, la pandémie, peut-être ça va aider à faire revenir des gens aussi, qui sait, là. Surtout s'il y a une pénurie, c'est intéressant d'étudier puis de savoir qu'à la fin, tu as des bonnes chances de trouver un poste.
Oui, absolument. Donc, tu t'intéressais à savoir quelles étaient les expériences, les perceptions de ces étudiants-là. Alors, quelles étaient les découvertes de ta recherche?
Je suis partie de ce qu'eux me disaient, puis j'ai essayé de catégoriser. Alors, mes questions pendant mes entrevues n'étaient pas du tout dirigées. Je les laissais parler avec... J'avais une dizaine de questions très larges, là. Et ensuite, j'ai pris leurs propos pour essayer de catégoriser. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient tous plus ou moins la même chose à dire. Alors, une grosse chose qui est ressortie, c'est toute la conception de l'enseignement. Selon eux, mais là encore, c'est leur perception quand ils étaient élèves. Parce que mes participants, à l'exception d'un, n'étaient pas des enseignants dans leur pays. Alors, des fois, même nous, on a l'impression de quelque chose. Quand on est élève, c'est peut-être pas la réalité. Mais leur perception... C'était que dans leur pays, et ce qui les unissait, parce qu'ils étaient tous francophones, malgré qu'ils venaient de différents pays, autant l'Europe, l'Afrique du Nord que l'Afrique, ils avaient tous un système scolaire plus ou moins basé sur le système scolaire français, parce qu'ils provenaient tous de pays francophones. Alors pour eux, ce qu'ils trouvaient, c'est que c'était beaucoup plus magistral. Ils trouvaient que c'était très hiérarchisé, où est-ce que l'enseignant était vu comme quelqu'un de vraiment un expert. Il y en a qui utilisaient l'expression « l'enseignant, c'était le roi, nous étions ses sujets ». C'est vraiment cette hiérarchie, le fait de poser des questions n'est pas vraiment bien vu, donner son opinion, pas bien vu non plus. Eux trouvaient que c'était beaucoup axé sur la mémorisation. Alors, ils étaient surpris lorsqu'ils arrivaient ici. Premièrement, dans les cours à la faculté, c'est difficile pour eux d'imaginer ce qu'on veut dire, parce que ce n'est pas ça qu'ils ont vécu. Et c'est difficile de le mettre en pratique, parce qu'ils n'ont pas d'image de ce à quoi ça devrait ressembler, impliquer les élèves dans ta leçon. Tu ne peux pas parler pendant une heure, il va falloir que tu trouves des façons de leur enseigner. Moi, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est ce qu'ils me disaient, ce n'était pas tellement loin de ce que moi j'avais vécu à l'élémentaire et au secondaire. Alors, je pouvais comprendre ce qu'ils avaient vécu puis comment faire des liens, de trouver des façons de voir comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment. L'autre chose qui est ressortie pour plusieurs, c'était la difficulté de se mettre en groupe. À la faculté d'éducation, dans leurs cours, lorsqu'on demandait de se mettre en groupe pour faire un travail, premièrement, plusieurs ont dit « je ne savais pas comment m'y prendre, je n'ai jamais eu à faire des travaux de groupe dans mes études ». Alors, c'est difficile de prendre le leadership d'une équipe parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi notre rôle. Et l'autre chose qu'ils remarquaient, pas tous par contre, mais c'était pas facile de faire des groupes avec d'autres personnes. Alors, ils se retrouvaient, les gens qui venaient ailleurs, si on veut, se retrouvaient en équipe ensemble, puis les gens qui étaient du Manitoba se retrouvaient dans une équipe ensemble. Alors, ça, il fallait essayer de... Comme on est tous de plus en plus conscients, puis on essaie de trouver des solutions, mais c'est quelque chose qui est ressorti là aussi.
Oui, je peux voir. J'essaie de penser à comme la cohorte aussi, puis je pense que qu'on était conscient ou non, ça l'arrivait aussi chez comme il y a cinq ans, je pense. 6 ans, je ne sais pas. Alors, j'ai lu un petit peu la recherche que tu avais faite et j'ai vu qu'il y avait comme aussi l'accueil de ces étudiants où il y avait une, L'accueil n'était pas super chaleureux, par exemple. Est-ce que tu pourrais commenter là-dessus?
Ça variait énormément, comme eux trouvaient qu'ils avaient été vraiment bien accueillis, mais malgré ça, ils avaient de la difficulté de se mettre dans des groupes avec d'autres élèves, d'autres étudiants. Alors, ça revient un peu à travail de groupe dont je mentionnais tantôt. La plupart se trouvaient bien accueillis dans leur école pendant leur stage. Alors, ça, c'est pas trop ressorti pour les stages, mais certains ont peur de prendre des initiatives dans leur stage parce qu'ils sont pas certains de bien comprendre c'est quoi les attentes au Canada. D'autres, pendant leur stage, gestion de classe, ils ont de la difficulté à intervenir. Certains, je ne veux pas tout généraliser et mettre tout le monde ensemble, parce qu'ils m'expliquaient après, des fois je suis perdue, je ne sais pas si ça c'est acceptable au Canada ou non, parce que dans mon pays, on ne ferait rien de ça. Alors là, j'ai de la misère à juger, est-ce que j'interviens ou est-ce que là, si j'interviens, ce n'est pas nécessaire parce qu'au Canada, on accepterait ce comportement. Alors c'est difficile pour eux, ça leur prend un certain temps pour s'habituer à qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas dans une salle de classe.
Mais leur apprentissage est tellement plus comme, il y a tellement plus d'apprentissage à faire parce que non seulement ils doivent apprendre ce que tous les autres apprennent dans la faculté, mais aussi c'est comme qu'est-ce qui est culturel et qu'est-ce comme c'est. Ça, mm-hmm. c'est énorme.
Oui. Alors, moi, j'ai essayé de ramasser toutes mes données comme un modèle, si on veut, qui dit que pour agir avec de la compétence, il faut avoir un savoir, qui est ce qu'on apprend à la faculté. Faut avoir un vouloir. Alors, il faut se sentir motivé, comme si on appartient à un groupe, on est prêt à prendre des risques. Et il faut avoir un certain pouvoir, qui veut dire qu'on t'a fait de la place, par exemple en stage, est-ce qu'on a fait de la place aux stagiaires pour prendre des décisions, etc. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on doit ajouter au savoir, au pouvoir et au vouloir pour les étudiants qui auraient été scolarisés à l'extérieur du Canada pour les amener à être confortables dans une salle de classe. Alors, il y a du savoir extra qui doit être appris, qui est à quoi ressemble une salle de classe au Canada, etc. Il y a toute la question de vouloir. Alors, ils peuvent être motivés. Mais est-ce qu'ils doivent travailler chaque soir? Est-ce qu'ils ont une famille à la maison qui fait en sorte qu'ils n'ont pas beaucoup de temps non plus pour s'intégrer au groupe? Et il y a toute la question de pouvoir. Quelle place est-ce qu'on leur donne? Est-ce qu'on exige d'eux qu'ils ressemblent aux autres ou est-ce qu'on leur fait une place pour voir, bien, apporte-toi aussi ce que tu as à apporter? Parce que moi, je trouve qu'on ne devrait pas complètement écarter ce qu'ils amènent avec eux, parce qu'on amène tous quelque chose dans notre salle de classe.
Oui, absolument. Puis, ça serait juste les exclure, qui n'est pas l'inclusion qu'on pratique ici au Manitoba de toute façon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres manières que la formation qu'on leur donne n'était pas peut-être suffisante ou...
Ce que j'ai commencé à faire avant d'avoir terminé mon doctorat, mais après avoir fait mes entrevues, c'est que j'ai commencé un groupe de discussion complètement facultatif. Où j'invite tous les étudiants qui n'auraient jamais mis les pieds dans une école au Manitoba, s'ils veulent de l'expérience avant d'aller dans leur premier stage de première année, on peut se rencontrer chaque vendredi ensemble. Et puis, avant la pandémie, je contactais des écoles et on rentrait dans des salles de classe. Alors, des fois, j'avais 4 ou 5 étudiants avec moi. On s'assoyait dans une salle de classe, on observait. Puis quand on sortait de la salle de classe, on discutait ensemble. Alors, l'avantage, c'est que là, moi, j'étais là. Alors, je pouvais voir ce qu'eux avaient vu. Parce que juste les envoyer puis dire « allez faire du bénévolat, allez voir », c'est difficile de savoir quoi observer. Alors, moi, je suis là pour faire un peu la liaison avec « qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce que vous avez des questions? » Et là, selon ce qu'eux apportent à la discussion, moi, je peux faire des liens. Mais c'est ça qu'on veut dire quand on dit gestion de classe, ils vont dire « Oh, mais j'ai vu que l'enseignant circulait beaucoup entre les pupitres, que les élèves avaient des tâches à faire, etc. » Alors, j'essaie de faire les liens pour eux pendant ces visites. Alors, ça, c'est une chose qu'on a mise en place pour essayer d'appuyer davantage, justement, ce savoir qu'ils n'ont pas nécessairement. Et ce qu'eux donnent comme commentaire, c'est qu'à la suite de ces visites, ça l'aide à comprendre les cours aussi. Parce que quand un prof parle de quelque chose, là, ils ont une image dans leur tête de « Oh, c'est à ça que ça ressemble dans une salle de classe, ce concept. » Alors, ça, ça les aide à faire les liens.
Oui, absolument. Comme si je ne sais pas quoi faire dans une situation, je tombe à qu'est-ce qu'on a fait quand j'étais jeune. Mm-hmm. Alors, d'avoir plus d'expérience, ça peut juste aider à mieux prendre des décisions puis à gérer la classe et enseigner.
Mm-hmm. Et souvent, l'enseignement traditionnel, ça nous permet, comme enseignants, de maintenir un contrôle. Mm-hmm. Alors, si on ne veut pas perdre le contrôle, des fois, on va choisir cette façon parce qu'au moins, on sait qu'on peut contrôler ce qui va se passer un peu plus que quand on laisse la place aux élèves. Mais là, il faut être prêt à faire de la gestion de classe parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver ensuite.
Oui, absolument. Puis c'est, oui, de plus en plus, je fais ça dans ma salle de classe, mais parfois, comme, il n'y a rien de mal avec un enseignement traditionnel si ce n'est pas tous les jours et comme chaque heure de la journée. Est-ce qu'il y avait d'autres découvertes qui t'ont bouleversée ou qui vont vraiment changer le futur de la faculté d'éducation?
Quelque chose qu'on a cessé de faire, transformer si on veut. Alors, il y avait un camp à la faculté d'éducation en début d'année où on se rendait au sud de la province, camper pour une nuit. Déjà, on voyait que certains étudiants, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ça commençait à être difficile ce camp parce qu'ils avaient peut-être des enfants à la maison et partir pour une nuit, c'était compliqué, la logistique, etc. Mais ce que j'ai vu aussi, les participants à ma recherche avaient passé à la faculté en 2003 et 2015. Alors, il y en a que ça faisait presque 15 ans qu'ils avaient fini leur BEd, mais plus que la moitié de mes participants m'ont parlé du camp. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient l'intention derrière le camp, mais que ça a été vraiment un choc pour eux. Parce que, si tu te souviens, vous arriviez à la faculté un mercredi d'habitude, premier cours à 8h30, on vous présentait le camp. On vous disait de vous mettre en équipe. Déjà là, on sait maintenant que ce n'est pas évident. On vous disait de préparer des activités, mais aussi vous organiser avec votre équipe qui va apporter l'équipement de camping. Alors, se mettre dans les... Puis moi-même, en arrivant de la Nouvelle-Écosse pour venir ici, je n'ai pas eu à vivre le camp parce que j'étais dans un programme différent à la faculté, mais je peux juste m'imaginer, quand je suis déménagée, je n'avais pas apporté de l'équipement de camping avec moi. J'avais juste mis ce que je pouvais mettre dans ma voiture. Alors, c'est un choc comme nouvelle personne, que tu sois d'ici ou d'un autre pays, que la première journée, on te dit, tu vas faire une équipe, vous allez partager une tente, tu n'as pas d'équipement, tu vas essayer de trouver des gens qui peuvent te prêter de l'équipement. Alors, ça, c'est l'impression qu'ils ont eue, que c'était un peu trop un choc culturel. Certains n'avaient jamais fait de camping avant. Alors, ce qu'on a choisi de faire, autant pour répondre à ces besoins que les besoins en général qu'on voyait commencer à changer, c'est qu'on a changé le camp pour une journée plein air au Parc Saint-Vital. Alors, ça se passe pendant la journée. Les buts sont exactement les mêmes. Il n'y a plus question d'avoir de l'équipement de camping. Il n'y a plus question d'être obligé de coucher pour une nuit. Ce n'est pas loin, parce que ça commençait à être difficile, la logistique de se rendre au sud de la province. Alors là, les gens peuvent venir en vélo, par autobus s'ils veulent, ou en voiture. Alors, ça facilite beaucoup. Et la journée est un succès. Tout le monde vient, tout le monde s'amuse. Et ça fait une différence au niveau de la collégialité. Ensuite, on voit toujours un changement. Alors, c'est pour ça qu'on ne voulait pas perdre l'idée du camp, mais il fallait trouver une façon que ce soit vraiment une rencontre où c'était inclusif, où tout le monde se sentait comme s'il faisait partie de l'événement puis qu'ils étaient à l'aise d'y être.
Oui, absolument. Comme je me rappelle du camp, c'était super le fun. Puis après, on s'est senti comme vraiment une cohorte de personnes. Puis, mais je peux, comme moi, j'ai toujours fait du camping. Alors pour moi, c'était comme, oh, yeah, oui, j'ai une tente, j'ai comme mes propres sacs de couchage, comme j'ai tout ça, comme j'ai deux coolers. Puis, mais oui, comme ça serait pas évident pour beaucoup de personnes, même des Canadiens qui l'ont jamais fait. Puis, oui, je peux voir comment que peut-être une journée plein air, ça serait plus inclusif pour tout le monde. Alors, tu as parlé de certaines améliorations, alors changer le camp, puis tu sais, avoir quelques étudiants qui viennent avec toi dans des salles de classe avant de commencer la faculté. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous allez changer tout de suite?
C'est pas nécessairement changer, mais plutôt sensibiliser. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de présenter ces choses-là à mes collègues, c'est des choses qu'on discute entre nous. Alors, Déjà là, tout le monde est plus sensibilisé à l'histoire de se mettre en groupe. Alors, plusieurs étudiants m'avaient mentionné, j'aime quand la prof fait les groupes dans la salle de classe, comme ça, j'ai pas le stress de devoir me joindre à un groupe et de devoir demander à des gens, est-ce que je peux faire partie de votre groupe? Alors, c'est quelque chose que j'ai partagé, puis c'est quelque chose que les collègues faisaient déjà, certains, là, mais je pense que maintenant, c'est juste de le faire de façon consciente, qu'on sait que des gens se sentent mal à l'aise quand on fait des groupes. C'est toutes les explications d'être beaucoup plus explicite. Alors maintenant, la première fois que je fais quelque chose en groupe, je dis ce que je m'attends de chaque membre du groupe. Comme ça, ça peut paraître comme quelque chose qu'on devrait prendre pour acquis, mais en ayant parlé avec les gens, de dire « j'ai jamais fait un travail de groupe, je suis pas certain qu'est-ce qu'on est supposé chacun de faire », alors ça vaut la peine. Et en même temps, ça modélise parce qu'eux devraient faire ça quand ils vont enseigner aussi. Alors, à la faculté, on est autant en train d'enseigner que de modéliser comment enseigner. Alors, ça mêle les deux choses en même temps, donc je pense que ça fonctionne bien.
Alors, comme par exemple, est-ce que tu donnerais à chacun un rôle spécifique à jouer au sein du groupe?
Bien, je leur dis, voici les rôles que les gens devraient avoir, puis je les laisse, c'est quand même des adultes et non pas des enfants, alors je les laisse décider entre eux, mais je leur dis, comme c'est pas l'intention, c'est pas de séparer la tâche puis de vous remettre ensemble à la fin, mais vraiment de prendre les idées de tout le monde, de décider comment vous allez faire un plan ensemble puis comment vous allez déterminer les différentes parties de ce que vous avez à faire. Personnellement, j'évite les travaux de groupe dans mes cours, un peu à cause de ça, mais beaucoup de discussions de groupe où je leur donne des rôles et tout ça, puis qu'ils arrivent à présenter à la fin, mais pas nécessairement pour évaluer. Ça met beaucoup de stress sur tout le monde, l'évaluation. Et certains des participants disaient que ça, c'est la raison pour laquelle ils croyaient que les Canadiens, entre guillemets, ne voulaient pas nécessairement travailler avec eux, c'est qu'ils étaient inquiets que ça descendrait le résultat qu'ils obtiendraient sur leur travail. Alors, eux, leur perception, c'était pas qu'on voulait pas travailler avec eux, mais c'est qu'on s'inquiétait de son résultat final. Et eux reconnaissaient qu'ils savaient peut-être pas trop comment s'y prendre. Alors, ils disaient peut-être qu'ils ont peur qu'à la fin, ils aient une mauvaise note ou une moins bonne note que s'ils avaient juste travaillé avec d'autres personnes.
Ou surtout les personnes qu'ils connaissent déjà. Est-ce que tu donnerais comme exemple, par exemple, une personne va présenter, comme va faire un résumé à la fin, une personne va écrire, comme va être scribe, ce genre de choses?
Oui, ce genre de choses.
OK.
Et aussi d'expliquer comme chacun devrait participer, chacun devrait donner son opinion. Et j'aime dire que une participation, c'est autant écouter que parler. Et qu'on a une bouche, mais deux oreilles, alors on devrait écouter plus qu'on parle. Juste essayer de voir que tout le monde puisse voir qu'ils ont une place dans l'équipe, pour pas que quelqu'un prenne le recul. Parce que quand on lit des recherches, ce que je lisais pour mon doctorat, justement, c'est que dans ces situations où on mélange des gens de différents endroits, que les Canadiens vont avoir tendance à prendre le leadership de l'équipe et de laisser un peu de côté les autres personnes. Puis que les autres personnes vont peut-être pas aimer, mais être à l'aise avec être d'un peu de côté parce qu'ils savent pas trop comment s'y prendre. Alors, eux veulent pas nécessairement leadership.
Oui, on sait que comme parler, avoir des discussions, c'est super important pour l'apprentissage. Donc, c'est pas vraiment exactement ce qu'on voudrait pour qu'ils apprennent. Est-ce qu'il y a des changements que les étudiants ont suggéré ou demandé?
Suggérer ou demander, bien, ils ont mentionné, parce que certains des participants, presque la plupart, n'étaient pas à la faculté quand je faisais mon groupe de discussion puis aller dans les écoles. Et la plupart ont mentionné que passer du temps dans une école avant de débuter ses stages, c'était vraiment important. Alors, j'étais contente de l'entendre parce que je me suis dit, OK, bien, mon idée répondait finalement à un besoin. C'est jamais tout positif non plus. Comme c'est difficile, comme tu sais, le programme est chargé en éducation, les gens travaillent. Alors, même si le groupe de discussion est facultatif, des fois, j'ai des gens qui disent « j'aimerais participer, mais je travaille les soirs, puis je travaille le vendredi. » Alors, malheureusement, alors ça, c'est la chose à voir. Comme je ne sais pas trop encore, là, pendant la pandémie, je le faisais quand même, mais je faisais Zoom au lieu. Et ce que j'ai demandé, puisque c'était vraiment difficile de rentrer dans les écoles, puis à un temps, on ne pouvait pas, j'ai communiqué avec plusieurs anciens collègues de différentes écoles, des gens qui étaient coopérants, et j'ai pu accumuler des enregistrements d'enseignement. Alors, ce que j'ai fait avec eux, c'est écouter les enregistrements, puis ensuite commenter. Alors, on l'écoutait sur Zoom, un peu comme quand on allait dans une salle de classe. Alors, maintenant qu'on est revenu en présentiel, je pense que je vais faire un mélange, parce que ça prend quand même du temps, se rendre dans une école, rentrer dans une salle de classe. Mais ils ont dit, les gens qui l'ont fait en pandémie, qu'ils auraient quand même aimé mettre les pieds dans une école, juste pour sentir comment on se ressent. Mais je pense que je vais faire un mix. Alors, aller dans une école, mais aussi regarder les enregistrements. L'avantage des enregistrements, c'est que tu peux faire pause et là, commenter plutôt qu'attendre à la fin. Alors, je pense qu'un mix des deux devrait aider.
Oui, ça semble vraiment intéressant. Je me rappelle quand on avait fait le micro-enseignement, puis on nous regardait en train d'enseigner, puis l'apprentissage qui se fait, c'est vraiment énorme. Est-ce qu'on envisage des changements en 5 ans, en 10 ans?
On n'est pas rendu si loin que cela. L'université est en train de travailler un plan stratégique justement pour les 5 prochaines années et la faculté d'éducation, on est rendu à mettre des objectifs en place. On a offert des présentations aux étudiants sur l'interculturalité, des choses comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer. Ce que j'aimerais voir personnellement, ça revient un peu à ce qui est ressorti des recherches. Et en ce moment, on vise beaucoup à appuyer ces étudiants pour qu'ils puissent bien s'intégrer. Mais moi, j'aimerais aussi trouver des formations pour les autres personnes, comment les accueillir. Parce que pour moi, c'est pas juste une personne doit s'intégrer, mais c'est tout le monde qui doit s'intégrer entre nous. J'avais ressorti un concept sur l'hospitalité où est-ce que si j'invite quelqu'un chez moi, c'est parce que je suis ouverte que les choses vont peut-être pas aller de la routine que j'ai habituellement. Parce que si j'invite quelqu'un chez moi, ça va peut-être avoir l'air un peu différemment. Alors, c'est la même chose. Si on invite des gens d'autres pays dans nos écoles, il faut s'attendre qu'on est ouvert, qu'on va peut-être modifier certaines choses. Et on leur fait réellement une place plutôt que de leur demander de venir comme nous. Alors ça, c'est la partie que j'aimerais travailler maintenant, c'est d'offrir des sessions, par exemple, aux coopérants qui accueillent un stagiaire qui a été scolarisé à l'extérieur, d'offrir des formations ou juste des séances de partage, mais avec tous les étudiants, pas juste essayer d'appuyer ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une école canadienne, mais ce serait intéressant que les autres comprennent leur perception aussi.
Mais oui, on a un rôle à jouer, puis c'est nous autres qui sommes privilégiés parce qu'on est Canadiens. Alors, de toute ta recherche, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a vraiment marqué comme individu?
Bien, je pense que ça a changé mon enseignement, comme je suis beaucoup plus consciente. Tous les acronymes qu'on utilise en éducation. déjà, il fallait les expliquer parce que les gens à la faculté, c'est des débutants, mais des fois, on prend pour acquis certaines choses. Je reprends beaucoup des choses de base au premier cours. Par exemple, on commence l'école à 5 ans, ça va de la maternelle à la 8e, ensuite de la 9e à la 12e. Parce que pour eux, des fois, c'est très différent. On a pris pour acquis qu'ils ont compris ça. Mais ceux qui n'ont pas d'enfants, des fois, n'ont aucune idée à quel âge on commence. Je me souviens, j'avais eu une stagiaire en mathématiques au secondaire, puis elle était surprise que les jeunes faisaient des mathématiques jusqu'à la 12e année, parce qu'elle m'expliquait que dans son pays, si tu n'étais pas trop bon en mathématiques, tu cessais de faire des mathématiques rendues au secondaire. Non, comme tout le monde est là, alors non, pas tout le monde est motivé d'apprendre des mathématiques.
Oui, absolument, ça pourrait vraiment avoir un effet, un impact dans ton enseignement. Tu as fait une recherche pas mal incroyable que je pense que ça va beaucoup aider beaucoup d'étudiants et des enseignants futurs. Et tu as beaucoup d'expérience également. La question que je pose souvent à la fin, c'est de quoi es-tu le plus fier de ta carrière jusqu'à date? Oh. Oui, c'est une grosse question.
C'est une grosse question. D'enseigner en français, je pense. Comme j'ai dit au début, j'ai fini, je suis née à Montréal, mais j'ai terminé mon secondaire en Nouvelle-Écosse avant qu'on ait le jugement de l'Alberta qui nous permettait de gérer nos écoles. Alors moi, j'ai terminé dans une école avec 3 enseignants qui enseignaient toutes les matières au secondaire de la 9e à la 12e année. quand j'ai gradué, on a demandé à l'école si on pouvait avoir un de nos profs au lutrin quand on allait nommer nos noms pour recevoir notre diplôme, parce que je ne voulais pas graduer comme étant Claudine Lupien. Et puis on nous a dit non. On nous a dit que c'est le maître de cérémonie de l'école qui allait nommer les noms. Qui m'a motivée, et c'est un peu pourquoi je suis venue étudier au Manitoba, parce que je ne voulais pas retourner au Québec, je voulais étudier dans un milieu minoritaire, puis je voulais enseigner dans un milieu minoritaire. Alors, je pense que ça, c'est une partie de donner une fierté aux jeunes, puis de leur dire comme, non, vous avez le droit d'exister, et de le faire en français. Et d'ailleurs, mon doctorat, je l'ai fait à l'Université du Manitoba, mais j'ai tout fait en français. Alors, j'ai rédigé ma thèse en français, j'ai soutenu mon doctorat en français et ça a été difficile. Des fois, comme tu te fais dire, « Ah non, c'est pas possible, ça se fait en anglais. » Puis j'ai dû pousser puis trouver des règlements pour essayer de défendre. Mais mon comité était vraiment super pour m'appuyer là-dedans. Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Puis, ouais, je suis bien contente d'enseigner en français.
Et merci beaucoup, Claudine Lupien, d'être venue aujourd'hui pour nous jaser de ceci. C'est fort intéressant.
Merci, Joëlle.
Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Joëlle Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes.